らっしゃい。
どうも。
Bienvenue au podcast Gaijin-san. Donc Gaijin-san, pour ceux qui ne savent pas encore, ce sont trois Français installés au Japon. Donc moi, Vincent, installé à Tokyo. Nicolas qui est installé donc au nord de Tokyo, à Saitama. Nicolas, bonjour.
Ouais, salut.
Voilà, et puis on a Émilie qui est donc tout au sud du Japon. Émilie, bonjour.
Bonjour Vincent, bonjour Nicolas.
Voilà. Voilà, bonjour à toi. Et puis donc aujourd'hui, donc c'est un épisode spécial, notre épisode spécial numéro 4. Voilà. Et aujourd'hui, donc nous recevons Michael Ferrier. Michael, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Voilà, bonjour, et donc Michael, bah on va commencer par ta petite présentation. Qui es-tu ? Dis-nous tout.
Alors, tout sans doute pas, mais donc, je m'appelle Michael Ferrier, j'habite au Japon depuis un certain temps, depuis 1992, c'est-à-dire ça va faire bientôt 30 ans, ça fait 29 ans, et je suis professeur à l'université Chuo à Tokyo. Voilà pour une petite présentation brève.
Donc tu es professeur et en même temps tu es aussi donc écrivain. Est-ce que je peux dire ça ?
Oui, tu peux le dire. Oui, 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 je suis écrivain. J'écris des romans et des essais.
D'accord.
Donc j'ai publié en tout je les compte pas, mais je pense qu'il y a une quinzaine de livres, y compris des livres collectifs que j'ai dirigés sur des sujets assez variés.
D'accord, mais toujours centré sur le Japon ?
Non, pas toujours centré sur le Japon, si le Japon intervient, j'y vis, donc évidemment, le Japon intervient de plusieurs manières dans mon travail d'écriture, mais les livres n'ont pas tous pour sujet principal, en tout cas, le Japon. Par exemple, il y a un roman qui s'appelle « Mémoire d'outre-mer » et qui, a, comme son titre l'indique, est plutôt centré sur l'outre-mer. Alors, on peut me dire que le Japon est une sorte de territoire d'outre-mer. C'est pas un dom-tom, mais c'est quand même effectivement un archipel qui est situé dans l'océan. Mais voilà, donc il y a des relations parfois indirectes entre le sujet des romans et le Japon, mais la relation n'est pas toujours directe.
D'accord, d'accord. Récemment, tu varies un petit peu les sujets ou tu restes tout de même recentré sur le Japon ?
Dans les romans, je varie beaucoup.
D'accord.
Parce que par exemple, il y a un roman qui s'appelle François, portrait d'un absent, qui raconte la mort d'un copain. Alors, même dans ce roman-là, n'a pas de rapport direct avec le Japon, puisque ça raconte la mort d'un vieux copain qui était un copain de lycée, en fait. Mais il y a quand même dans ce roman-là, il y a quand même un passage au Japon, puisque cet ami adorait le Japon. Après, ça, c'est pour les romans et les récits. Dans les essais, c'est vrai que les essais sont plus centrés quand même sur le Japon en tant que tel. Oui.
D'accord, d'accord. Bon, bah, très bien, bah, écoute, merci. Alors, la question, c'est de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Alors, comme on est en 2021, en mars 2021, c'est le 10e anniversaire de Fukushima, comme chacun sait. Et donc, 10 ans, c'est évidemment une date symbolique. C'est une date qui permet d'avoir un peu de recul déjà. Et donc, je voulais vous parler de Fukushima, d'autant plus que vient de sortir un livre, donc il y a quelques jours, qui s'appelle « Dans l'œil du désastre ». Créé avec Fukushima, qui est sorti aux éditions Thierry Marchès à Paris. Et ce livre a été fait avec des artistes japonais et français. Et comme son nom l'indique, hein, dans l'œil du désastre créé avec Fukushima, ce livre s'intéresse à l'impact de cette triple catastrophe que nous nommons Fukushima sur non seulement la pratique artistique des artistes, et notamment des artistes japonais, mais aussi sur ce que ça a changé dans leur vie, dans leur manière d'organiser leur vie, dans leur manière de penser leur rapport à la vie. Et donc c'est un livre assez épais, hein, qui fait pratiquement 250 pages en 4 colonnes, donc c'est vraiment un gros livre avec 125 illustrations, puisque Nous avions des artistes avec nous, donc on leur a demandé évidemment de nous donner des images, et certaines sont vraiment extraordinairement belles. Ça, je suis très 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 content, très fier du côté graphique de ce livre qui est très beau, vraiment. Et puis donc c'était aussi l'occasion donc de revenir sur cette catastrophe, de voir ce que ça a changé pour les artistes, mais évidemment, comme vous le savez, les artistes, c'est une espèce de caisse de résonance et c'est une caisse de vibration de tout ce qui se passe dans une société. Ce sont des espèces de sismographes, les artistes. Et donc, en donnant la parole aux artistes, je crois qu'on peut avoir une vision tout à fait intéressante, tout à fait instructive de ce que Fukushima a changé, non seulement dans le monde de l'art, mais au-delà, pour le Japon, pour la vie au Japon, pour l'archipel japonais lui-même.
Moi, j'ai une petite question par rapport justement au titre. Tu parles beaucoup de Fukushima.
Oui.
Mais la catastrophe, t'as bien précisé que c'est une triple catastrophe.
Oui.
C'est avant tout un tremblement de terre. C'est le tremblement de terre du Tohoku qui a généré un tsunami, qui a généré la catastrophe de Fukushima.
Oui.
Mais en France, on a souvent tendance, d'ailleurs, on l'a bien vu avec ce 10e anniversaire, de ne parler que de Fukushima. C'est-à-dire, contrairement au Japon, où on parle beaucoup du tsunami et du tremblement de terre du Grand Est, en France, on parle beaucoup de Fukushima. Est-ce que ce titre, tu l'as choisi justement parce qu'en France, ça se focalise beaucoup là-dessus ?
Alors, ça, c'est une très bonne remarque. Effectivement, au Japon, le mot Fukushima existe au Japon, y compris pour désigner la catastrophe, mais on l'appelle plus souvent le 11 mars. Sanichichi, même on dit, c'est-à-dire un peu comme le 11 septembre, mais au Japon c'est le 11 mars, donc il y a un effet comme ça. Et c'est vrai que quand on interroge les Japonais, et dans ce livre c'est très clair, quand on a interrogé les artistes, eux, ils entendent 11 mars, pour eux, c'est les trois catastrophes. Elles sont liées. Elles sont intrinsèquement liées et inséparables. Et c'est vrai qu'au Japon, c'est comme ça. Triple catastrophe. Qui porte aussi le nom de Fukushima, souvent qu'on écrit en katakana. En France, et je dirais dans le reste du monde, la catastrophe nucléaire a un peu pas éliminé les deux autres, puisqu'on a toujours conscience qu'effectivement il y a eu un séisme et un tsunami. D'ailleurs, la plupart des morts, l'immense majorité des morts sont morts dans le tsunami. Mais c'est vrai qu'en France, pour des raisons sur lesquelles on pourra d'ailleurs réfléchir, en France, quand on dit Fukushima, on a tendance à resserrer la focale uniquement sur l'accident nucléaire. Donc dans ce livre, ça s'appelle « Créer avec Fukushima », tous les artistes que nous interrogeons prennent comme sujet à la fois le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire, c'est-à-dire les trois. Ce qui ne veut pas dire qu'ils les mettent sur le même niveau. C'est-à-dire que il est évident, pour les artistes que nous avons interrogés, il est évident que la catastrophe de Fukushima, ce sont ces trois catastrophes-là, le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire. Mais à chaque fois, il est évident que la catastrophe nucléaire a quand même au Japon, une place tout à fait spécifique. D'abord pour la simple et bonne raison qu'elle continue. Alors que le séisme, évidemment, a eu ses effets tout de suite, le tsunami également. Ils ont aussi des effets parce qu'ils ont détruit des paysages et ils ont détruit des organisations urbaines, sociales, spatiales, etc. Mais la spécificité du nucléaire, et notamment dans les échelles de temps que l'accident nucléaire engage, est quand même très très présente, même au Japon.
Je voulais juste revenir sur ton livre. Combien de temps tu as mis pour récupérer tous ces récits
Alors,
c'est quelque chose que...
C'est un projet de longue haleine, hein, c'est un projet qui a commencé en fait dès 2012, donc ça fait presque 10 ans. En 2012, j'ai sorti un premier livre qui s'appelait Fukushima, récit d'un désastre, qui est sorti...
Voilà. Celui-ci, je l'ai lu.
Oui.
Voilà.
C'est un livre qui est sorti... Voilà. Un an, jour pour jour, après la catastrophe, c'était un livre qui avait été écrit dans un état d'urgence et presque d'effervescence, puisque juste après le 11 mars, je suis allé dans le Tohoku plusieurs fois, et j'en ai tiré ce livre, Fukushima, récit d'un désastre. Mais à partir de là, C'était donc un livre, à la fois un récit, un témoignage. C'était déjà une espèce de mise en essai. C'est-à-dire qu'il y a déjà, dans Fukushima, récit d'un désastre, il y a déjà un côté un peu de réflexion, notamment dans la troisième partie, qui s'appelle « La demi-vie, mode d'emploi ». Donc un essai, c'est un récit très étrange, c'est un récit très hybride, qui est à la fois témoignage, qui apporte son propre témoignage, puisque je suis monté en camionnette dans le Tohoku, mais qui en même temps est une chambre d'écho de tous les gens que j'ai pu rencontrer à ce moment-là. Et puis, mais ça faisait un livre vraiment brûlant. C'est écrit et publié en un an, donc c'est un laps de temps très court. Et assez rapidement, il m'a semblé qu'il fallait non pas compléter ce livre-là, mais en tout cas le poursuivre d'une autre manière. C'est-à-dire le poursuivre en essayant d'interroger des gens et en essayant d'aller sur d'autres terrains que celui du pur témoignage de la catastrophe elle-même. Il y a eu beaucoup, beaucoup de livres à écrire sur Fukushima, que ce soit au Japon, bien entendu, mais même dans d'autres pays. Alors ça va des conséquences économiques, sociales, écologiques, l'analyse du risque. Mais il y avait toute une partie qui, depuis 10 ans, à ma grande surprise d'ailleurs, n'avait jamais été abordée. C'était les artistes. Comment les artistes ont vécu ça? Alors je dis que ça n'a jamais été abordé. Ça a été abordé ponctuellement par des chercheurs, surtout anglophones d'ailleurs, qui s'intéressaient à un artiste ou à un groupe d'artistes. Il y a eu aussi un livre en anglais, assez récent d'ailleurs, l'année dernière, qui essayait de faire un point un peu plus complet. Mais la spécificité de ce livre, Dans l'œil du désastre, elle est double. D'abord, le livre donne vraiment la parole aux artistes. C'est-à-dire, c'est pas tant un livre sur Fukushima qu'un livre avec les artistes de Fukushima. On leur donne la parole, on les écoute, on les a écoutés très longuement. Donc j'ai dit que les premiers, vraiment les prémices de ce livre, c'est dès 2012, et ensuite tout ça a été revu l'année dernière, en 2020, et donc ça forme une espèce de continuum temporel où les artistes ont la parole et on les écoute. On leur pose des questions, mais surtout on les écoute longuement et souvent à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'on a interviewés, par exemple, en 2014, et j'ai repris leurs entretiens en 2018, ensuite en 2020, et donc ça fait une espèce de construction dans le temps qui est assez intéressante pour voir comment l'événement Fukushima finalement s'installe dans le paysage japonais, pas seulement le paysage physique, mais évidemment le paysage intellectuel et artistique. Et donc ça c'est très intéressant parce que les artistes nous apprennent vraiment à voir cet événement-là en dehors des filtres médiatiques, par exemple, ou des filtres sociologiques dominants. Et ils ont chacun une espèce de voix très singulière. Ils sont pas tous d'accord entre eux, d'ailleurs. Mais je trouvais que c'est ça qui manquait. C'était le côté artistique. Comment les artistes avaient vécu ça. Et à ma grande surprise, il y avait très, très peu de choses, finalement. Et ça donne un livre avec une vue d'ensemble. C'est pas du tout un livre exhaustif, hein, parce qu'en tout, il y a une trentaine d'artistes, dont une douzaine de japonais. Mais c'est pas exhaustif, hein, mais c'est assez complet. Voilà. C'est pas exhaustif, mais c'est assez complet parce que, justement, ce sont des artistes assez différents, qui travaillent tous dans les arts visuels. Art visuel au sens très large, hein, ça peut être donc peinture, sculpture, mais aussi l'image, que ce soit l'image fixe, la photographie, l'image en mouvement, le cinéma. On a un entretien par exemple avec Suwa Nobushiro, et puis des gens qui sont aussi, comme beaucoup d'artistes japonais ou autres d'ailleurs en ce moment dans l'art contemporain, des artistes qui sont à la lisière de plusieurs genres, puisque il y a une grande hybridité en fait des pratiques. Il y a des gens par exemple qui font à la fois du cinéma, de la photo, des installations, des performances. Donc voilà, donc c'est un livre qui donne la parole aux artistes et à des artistes assez variés, même si c'est évidemment pas exhaustif, parce que c'était tout simplement impossible d'être exhaustif. Il y a trop de... Fukushima a impacté la société japonaise trop en profondeur pour donner, même 10 ans après, un livre exhaustif sur le sujet.
Donc on est plus dans le recueil de témoignages, finalement.
Alors c'est pas des témoignages parce que... Il y a un côté témoignage, parce que, par exemple, on leur demande comment, qu'est-ce qui s'est passé pour vous le 11 mars, comment vous l'avez vécu, mais c'est plus que du témoignage, parce que dans le mot témoignage, il y a quelque chose qui est à chaud. Alors que là, on a vraiment des gens qui, depuis une dizaine d'années maintenant, ont intégré ou essayé d'intégrer ce qui s'est passé à Fukushima le jour du 11 mars dans leur pratique artistique. Donc il y a quelque chose qui est beaucoup plus froid, beaucoup plus distancié, et même avec, pour certains, avec une grande finesse d'analyse qu'on trouverait pas dans un témoignage à chaud, qui a d'autres qualités mais qui n'a pas celle-là de la distanciation comme ça, à la fois dans le temps et dans la pratique.
Et tu disais qu'ils avaient une vision très différente de la vision, par exemple, du traitement médiatique qu'en effet. C'était quoi la grosse différence entre les deux ?
Alors, vous le savez peut-être, et ça sera peut-être l'occasion un jour de faire un podcast sur le fonctionnement du monde médiatique au Japon, puisque vous savez qu'il y a par exemple des clubs de presse pour les médias, et que ça donne une information quand même assez homogénéisée, pour pas dire formatée.
Oui, on en avait parlé un peu dans un ancien podcast. Les journalistes sont choisis avec des questions données à l'avance, donc c'est très difficile d'avoir une liberté de la presse au Japon, en fait.
Voilà, ou plutôt ce qu'on appelle liberté de la presse ne correspond pas tout à fait, même pas du tout, à ce qu'on pourrait appeler la liberté de la presse en France. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas aussi des espaces de liberté dans la presse japonaise, hein, mais en tout cas, elle fonctionne très différemment de ce dont nous avons l'habitude en France. Et donc, les artistes, eux, pour le coup, n'ont pas ce problème-là. Il n'y a pas besoin d'avoir une carte d'artiste pour être artiste, pour faire une exposition, pour présenter un travail artistique, que ce soit une vidéo, il y a beaucoup des artistes que nous avons interrogés, notamment le fameux groupe Chimpom, que vous connaissez peut-être, qui eux ont un fonctionnement vraiment avec Internet. Ils filment, ils font beaucoup de performances et ils filment ce qu'ils performent et ils le mettent quasi instantanément sur Internet. Donc là, la censure ou le filtrage, que ce soit un filtrage d'État ou un filtrage médiatique, n'a pas le temps de se mettre en place. Je donne l'exemple de Chimpom parce qu'ils l'ont fait très rapidement après le 11 mars, puisque la Chimpom, pour les présenter rapidement, c'est un groupe de 6 jeunes japonais. Quand je dis jeunes, ils sont dans leur vingtaine et dans leur trentaine. Il y a une fille et 5 garçons. Et ils travaillaient déjà. C'est un collectif qui existait avant le 11 mars 2011. Et qui s'intéressait d'ailleurs, avant le 11 mars 2011, qui s'intéressait déjà au nucléaire, qui avait déjà travaillé sur les problématiques du nucléaire dans leur art. Mais évidemment, Fukushima leur a donné à la fois un nouveau ressort et une caisse de résonance dans la société japonaise tout à fait extraordinaire. Ça a amplifié le travail qu'ils avaient déjà commencé à mettre en place avant. Et un de leurs premiers faits d'armes après le 11 mars 2011, c'est le 11 avril, c'est-à-dire un mois juste après la catastrophe. Vous en avez sans doute entendu parler. Ils sont allés en fait dans la zone interdite, pas très loin de la centrale, à 600-700 mètres de la centrale, le 11 avril 2011, c'est-à-dire à 600 mètres de la centrale de Fukushima Daiichi, cette année-là, à cette date-là, il y a énormément de radiation. D'ailleurs, ils sont vêtus de costumes de radioprotection, et donc ils y vont en voiture. Ils se filment et ils vont déployer pas une banderole, mais un drapeau qu'ils font eux-mêmes devant la caméra à ce moment-là, donc à quelques centaines de mètres de la centrale de Fukushima. Et ce drapeau, c'est un grand drapeau blanc avec un rond rouge au milieu. Alors ça, évidemment, vous le connaissez, c'est le drapeau japonais, c'est le Shinomaru. Mais à ce rond rouge au milieu, ils ajoutent trois petits signes rouges sur les côtés, c'est-à-dire qu'ils transforment le drapeau japonais que vous connaissez tous, ce rond rouge, dans un grand drap blanc. Ils le transforment en fait en trèfle radioactif, au pochoir, à la bombe, comme ça, en taguant en fait sur ce drapeau japonais trois lobes, comme, et ça fait que le drapeau japonais se transforme en une sorte de symbole du nucléaire. Et ils agitent ce drapeau-là comme on agite un drapeau blanc, c'est-à-dire à la fois une espèce de signal de détresse d'une certaine manière, et il se filme et derrière, il y a la centrale nucléaire de Fukushima en arrière-plan. Voilà. Et hop, c'est dans la boîte. Ils postent ça sur Internet très, très vite. Et voilà, ça, c'est une des premières performances qu'ils ont faites. Et évidemment, là, ils n'ont pas besoin de carte de presse. Ils demandent l'opinion à personne. C'est un geste. Alors, c'est un geste artistique. Hein. Certains diront, mais il n'y a pas de création là-dedans, rien du tout. Ça, on pourra en discuter après. Mais en tout cas, c'est une performance artistique avec une forte portée politique, un grand courage aussi, et à mon avis, une grande intelligence, parce que transformer le drapeau japonais le 11 avril 2011 en symbole radioactif, c'est vraiment montrer ce qui était en train de se passer à ce moment-là au Japon. C'est-à-dire que le Japon était tout d'un coup réduit à sa dimension radioactive. Et puis, quelques semaines plus tard, une deuxième performance du même groupe, Chimpom. Ceux qui sont allés au Japon ou qui y habitent connaissent à peu près tous la gare de Shibuya, n'est-ce pas? Et quand vous allez à la gare de Shibuya, vous voyez dans le grand hall qui est juste en face du grand carrefour de Shibuya, là, le Scramble, un des plus beaux carrefours du monde, qui est une espèce où il y a une grande baie vitrée, on peut s'installer là, on peut regarder, tout le monde connaît ça, c'est magnifique, c'est un lieu fascinant. Mais si vous retournez, c'est-à-dire si au lieu de regarder le Starbucks Coffee qui est en face et les gens qui en dessous passent et se croisent sur cet immense carrefour, si vous vous arrachez un moment à la contemplation un peu sidérante de ce carrefour-là, vous vous retournez et de l'autre côté du hall, vous allez voir une immense fresque qui s'appelle Asu no Chinois, c'est-à-dire le mythe de demain. C'est une grande fresque d'un artiste japonais très connu qui s'appelle Okamoto Taro. Et cette fresque a été mise dans la gare de Shibuya, là, dans le grand hall. C'est-à-dire, c'est un des endroits les plus passants du Japon. On est en plein cœur de Tokyo, enfin, dans un des grands centres de Tokyo, à Shibuya. Et les gens, par exemple, pour aller prendre la Inokashira Sen, la ligne Inokashira, ou bien pour aller prendre la Yamanote, on passe devant ce tableau. Et c'est plus qu'un tableau, c'est vraiment une fresque, elle est immense. Elle est immense, mais personne s'arrête, tout le monde passe devant, parce que tout le monde a quelque chose à faire, on va au boulot, on va voir des copains, on va boire un coup, etc. Or, si on s'arrête, on voit que cette fresque, donc le mythe de demain par Okamoto Taro, cette fresque, elle a un sujet. Et ce sujet, c'est un des sujets de la fresque, et on le voit à un moment donné, on voit un bateau dans un coin. C'est un accident qui a eu lieu en 1954, lors de l'essai nucléaire américain dans l'atoll de Bikini. En 1954, les Américains font un essai nucléaire donc dans l'atoll de Bikini. Ils préviennent les Japonais, qui sont pas loin évidemment, et ils donnent une zone autour de laquelle les bateaux ne doivent pas aller, notamment les bateaux de pêche japonais. Mais ils avaient complètement sous-estimé la puissance de la bombe, et en fait, les retombées radioactives de cet essai atomique, de cette bombe qui font exploser, vont bien au-delà de la zone d'exclusion que les Américains avaient prévue, avaient programmée. Et du coup, il y a plein de bateaux qui sont contaminés, des bateaux de pêche japonais, et notamment le Daigo Fukuryu Maru, le dragon chanceux numéro 5, si je traduis, qui n'était pas si chanceux que ça, puisqu'il donc il est pris dans les contaminations radioactives, dans les retombées radioactives, et il va y avoir même un mort, le radio de ce bateau va mourir, et puis tout l'équipage de ce bateau, qui est un bateau de pêche, un thonier, pêche du thon dans le Pacifique, donc tout l'équipage va être contaminé, et puis il va y avoir une... 1954, hein, on est 9 ans après Hiroshima, Nagasaki, donc il va y avoir une espèce de réaction très forte de l'opinion publique japonaise, et les étals de poissons dans les marchés, par exemple, il va y avoir des grandes pancartes, attention, poissons radioactifs, etc. Donc on est en 1954, on l'a un peu oublié depuis, mais c'est... L'archipel japonais et l'atome, c'est une très longue histoire. Et cette histoire du Daigo Fukuryu Maru va marquer énormément les Japonais en 1954. Et Okamoto Taro, donc, l'évoque dans cette fresque. Le paradoxe étant que cette fresque, comme je l'ai dit, elle est au centre de Tokyo, dans la gare, dans le grand hall de la gare de Shibuya, mais tout le monde passe devant. Et personne s'en occupe. Si vous posez la question à des Japonais, vous leur demandez qu'est-ce que c'est. Certains connaissent le nom, évidemment, de Okamoto Taro, mais très peu vont pouvoir vous dire que ça concerne cet épisode-là de l'histoire de l'atome dans leur propre pays. Et donc, pour revenir à Chimpom, notre groupe, notre jeune collectif d'artistes japonais, qu'est-ce qu'ils font ? Un soir, donc, ils vont à la gare de Shibuya, et puis, il y a un grand escalator là, qui monte devant la fresque de Okamoto Taro, et il rajoute à cette fresque, très rapidement, il rajoute deux petits panneaux qu'ils ont peints eux-mêmes. Donc, ils complètent, si vous voulez, la fresque de Okamoto Taro en mettant sur le côté, là, du côté des escalators, en utilisant les escalators qui montent, là, de manière assez intelligente. Ils rajoutent donc deux petits dessins qui représentent la centrale de Fukushima, la centrale nucléaire de Fukushima. Là, on doit être en mai, je crois, en mai 2011. Et donc, c'est une manière pour eux de dire que cette histoire de la contamination radioactive au Japon, elle n'est pas terminée, elle vient de continuer, et donc c'est comme s'ils ajoutaient en fait un chapitre au livre de l'atome, sauf que là c'est pas un livre, c'est une fresque, c'est une peinture, et donc ils ajoutent un panneau, voilà. Et ils le font le soir vers 21h, une heure après la police est sur place, ils enlèvent tout de suite cette espèce de complément de fresque que Chimpom avait posé, mais c'était trop tard puisque déjà ils avaient filmé leur action artistique et ils l'avaient diffusé déjà sur Internet. Donc voilà, Chimpom, c'est ce groupe de jeunes gens très très actifs, suractifs, et qui a toujours des idées comme ça très très pétillantes, très originales, uniques, et qui agit un peu à la manière d'une guérilla. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui parlent de guérilla artistique. Donc, ils s'incrustent comme ça, tout d'un coup, dans la vie publique japonaise. Ils font un coup. Alors, c'est plus qu'un coup, parce que c'est vraiment quelque chose qui, à la fois, est très, très, très bien pensé, très bien calculé, très spectaculaire et en même temps très intelligent. Et donc, voilà, ça, c'est pour finir de répondre à votre question. J'ai été un peu long, pardon, mais c'est pour vous dire que, évidemment, on n'est pas dans le cadre d'un journaliste qui tout d'un coup va réagir même par un texte critique. On est dans une autre temporalité, dans une autre manière d'agir et donc de penser aussi.
Et justement, pour rebondir là-dessus, quelles ont été les réactions du public ? Parce que les autorités, bon, elles essayent un peu d'étouffer ça parce que ça fait mauvais genre, mais le public, quelles ont été les réactions ? Parce que le Japon, en fait, c'est une société qui n'aime pas tout ce qui dépasse. Par exemple, quand il y a eu l'incident nucléaire de Hiroshima, quand les Américains ont lâché la bombe, il y a eu les Hibakusha, c'est-à-dire les Japonais irradiés qui ont subi, après la guerre, des fortes discriminations. Et Fukushima aussi, les personnes victimes de Fukushima ont aussi beaucoup eu de discrimination envers elles. Est-ce que les Japonais, en fait, ceux qui ne sont pas touchés n'ont pas envie, en fait, d'entendre ça?
Alors, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec l'expression « les Japonais ».
Oui, enfin, parce que
on évite aussi, nous, dans les podcasts, en général, d'utiliser, parce que c'est toujours assez, assez facile. Donc, on essaie souvent de remédier à ça.
C'est-à-dire que... On peut dégager de grandes tendances, mais il faut quand même... Faut quand même être un peu sérieux et précis. Par exemple, toutes les enquêtes d'opinion, là pour le coup, on en a depuis 2011, toutes, absolument toutes, convergent vers la même conclusion, c'est-à-dire que les Japonais ne veulent plus du nucléaire, en majorité. Ça ne veut pas dire que le nucléaire ne continue pas, il a repris en partie. Ce sont des situations assez complexes, mais on peut dégager quand même de grandes lignes. Après, tout le monde sait qu'un sondage, selon la façon dont la question est posée, selon le panel qui est choisi, selon le moment aussi du sondage, je ne dis pas qu'on peut faire dire n'importe quoi à un sondage, mais c'est comme les statistiques. Il faut vraiment un travail précis d'historien, de sociologue qui accompagne ces outils chiffrés. Ça, c'est la première chose. Mais bon, compte tenu de tout cela, je pense qu'on peut dire depuis 10 ans, tous les voyants sont au rouge pour le nucléaire au Japon. C'est évident, dans l'opinion publique. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est complètement indéniable. La deuxième chose, c'est étonnant que vous